Non, nous allons, je vais vous dire quelques éléments de la biographie de Père André. Vous ayez quand même quelques... Enfin, il y en a qui le connaissent mieux que moi, mais voilà. Mais donc, vous donnez au moins quelques éléments. Et puis cet après-midi, nous aurons des témoignages. Et enfin, après, on se divisera en petits groupes avec des anciens et des nouveaux, des gens qui ont connu le Père André et d'autres qui ne l'ont pas connu. Pour, voilà. Mais on vous précisera tout ça au fur et à mesure. Donc là, je vais vous parler jusqu'à midi et demi à peu près. Vous entendrez aussi la voix de Père André dans quelques minutes. Il ne vous parlera pas du haut du ciel, mais enfin, qui sait. Mais voilà. Alors, bon, bienvenue d'abord à tout le monde. Alors, donc, il y a des amis de longue date de la communauté, il y a des plus nouveaux qui n'ont jamais connu Père André. J'étais à peine né quand Père André nous a quittés. Il y a notamment les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve qui sont bien représentées avec leur supérieur général. Sœur Marie-Luc et sœur Laurent-Marie qui ont bien connu Père André. Voilà, alors bienvenue en tout cas à tous. Alors, bon, il ne faut pas que je tarde davantage, sinon... Alors, donc pour nous, c'est important de fêter ces... Enfin, de fêter, ou de commémorer en tout cas, et de se souvenir de Père André, parce qu'il a été vraiment important pour la congrégation. Il a été supérieur général pendant 30 ans, à une période un petit peu difficile, donc de 1959, en février 59, jusqu'en décembre 1988, donc une période assez longue. Alors je vais vous donner donc d'abord son enfance. Donc tout le monde sait, vous entendrez à l'accent de quelle région il vient. Donc, Père André est alsacien, il est né pas très très loin de Mulhouse. Alors, il a eu que 17 anniversaires, 16 anniversaires pendant sa vie. Pourquoi ? 29 février, donc. voilà, il est décédé avant son 17e anniversaire. Voilà, c'était l'aîné d'une famille de trois garçons, donc ses parents Henri Stocklin. Marie Stocklin, alors sa maman, quand elle est arrivée ici, elle ne parlait pas français, elle parlait alsacien. Et son papa s'est beaucoup été chargé de la gestion matérielle de l'abbaye après. Mais au point de départ, donc ils étaient en Alsace, bien entendu. Et ils étaient, lui était contremaître, ou en tout cas il travaillait dans une société du style de Brésillon, là-bas. Et donc voilà. Et la maman de Père André, ah oui, alors, il y a sans doute des éléments que vous pourrez compléter pour ceux qui sont plus anciens que moi. Vous n'hésiterez pas à me dire pour compléter, éventuellement corriger certaines choses, mais surtout, je pense, compléter des éléments que je pourrais dire et puis les enrichir par ce que vous connaissez. Donc, Mamie, donc c'est comme ça qu'on appelait la maman de Père André, quand elle était enceinte de Père André, donc, avait fait une retraite dans une abbaye. Au moment du grand salve Regina, elle avait dit à la Sainte Vierge, si c'est un garçon, je te le donne. Alors le bon Dieu a dû bien entendre ça, il n'est pas sourd. Et en tout cas, il a entendu assez tôt l'appel à se donner à Dieu. Alors il a fait un essai à 12 ans, il est allé au petit séminaire chez les prêtres du Sacré-Cœur de Saint-Quentin, mais à Viry-Châtillon, dans la banlieue parisienne. Mais bon, là, ça s'est moyennement passé. Il était jeune, il avait le mal du pays, hein, la chère Alsace qui lui manquait, et papa et maman qui lui manquaient. Et puis avec son accent, les autres se moquaient de lui, voilà. Donc ça n'a pas forcément été très facile, et du coup, son papa est venu le rechercher. Vous connaissez peut-être ce qu'a fait Père André avant d'être frère. Il était ramoneur. Oui, dans les cheminées. Et puis, avec la guerre, il est venu dans sa famille. Il a été employé de bureau de son ex-patron. Voilà, et c'est là qu'il va rencontrer, puisqu'il était au service de son patron, il allait chercher le courrier à la poste. Et en 1939, le père André va chercher le courrier à la poste. Et comme il est... Et il arrive avec son vélo, qui pose tranquillement devant la poste. Et puis, c'est là que Charles Ménéquer... Alors, Charles Ménéquer, c'est celui que le père Lamy considérait comme son successeur. De fait, il ne sera jamais frère dans la communauté, mais c'est un peu lui qui avait repris le flambeau, en quelque sorte, qui était à la tête des jeunes qui étaient là à l'abbaye en 1940. Mais donc, Charles Ménéquer, à ce moment-là, avait été mobilisé et il était donc dans la région d'Anne-Marie, au PTT d'Anne-Marie. Voilà, et c'est là que donc le père André va rencontrer Charles Ménéquer. Et alors on va écouter maintenant le... Alors, on va écouter un enregistrement. C'est un enregistrement de père André en 1989. Dès la fin de son mandat de supérieur général, quand Pertiré est devenu supérieur général, donc Père André était nommé maître des novices. Et c'est ainsi qu'il va nous donner, alors c'est très précieux pour nous, un certain nombre de cours sur l'histoire de la congrégation. Alors c'était vraiment la mémoire de la communauté. Et donc on a un certain nombre d'éléments. Et là, dans un des cours donc, qu'il a donné fin 89 à peu près, donc, il raconte sa rencontre justement avec Charles Ménéquer.
Le serviteur ayant été inspecter une cave où étaient entreposées des grandes roues pémentales de grillet, ça veut dire roues de grillet, a attrapé sa fameuse toilette araignée dont on avait entendu parler, et j'allais donc à la poste pour déposer du courrier. Et en me retournant, je me fais interpeller par un sergent qui était là au guichet, qui m'appelle en me disant que j'avais une toile d'araignée sur le dos. Alors, je n'étais pas très modèle quand on a ce là, un peu vexé. Je suis quand même descendu l'escalier avec mon vélo. Avant de monter sur mon vélo, j'ai enlevé ma veste et puis j'ai vérifié. Et lui, il était à la fenêtre, il m'observait. Oh, c'est amusant. J'ai enlevé ma toile. Il est bête, là. Je lui ai fait un merci, puis je suis parti. Et puis le soir, ça c'était au mois de mai. Le soir, je vais au mois de mai, parce que c'était une coutume en Alsace. Au mois de mai, on avait le chapelet. Et à la sortie, je me trouve nez à nez avec lui. Alors, on s'est reconnus, on s'est mis à parler, et puis, dans l'aiguille, comme il venait tous les soirs, lui aussi au mois de Marie, on causait, il m'a prêté le livre du Père Lamy, il m'a parlé de la congrégation, et puis j'ai pris le virus. En lisant la vie du Père Lamy, ça m'a bouleversé. Et comme j'avais l'intention d'être prêtre déjà depuis que j'avais 12 ans, mais que j'avais un essai qui s'était soldé par un échec, j'avais été dans un collège aux environs de Paris, à Viry-Châtillon, chez les prêtres du Sacré-Cœur de Saint-Quentin, en 1936. Mais j'avais un tel mal du pays que mes parents sont obligés de me rechercher. Pauvre petit qui n'était jamais quitté sa maman et son papa. Mais le désir d'être prêtre ne m'avait pas quitté. Et donc ça a ravivé. Et puis ensuite, j'ai écrit une convivère. Et puis arrive à ce moment les événements, l'invasion de 10 mai 40, vers la fin du mois de mai, le 28 mai exactement, je crois. Je sais que c'était le dimanche de la Trinité, je ne me rappelle plus la date. J'ai décidé, enfin, avec la grâce de Dieu, que je serais serviteur de Jésus. Avant, j'hésitais. Mais entre-temps, M. Ménéquer était venu à la maison, il lui avait présenté à mes parents, et ils avaient fraternisé, et puis même lié amitié. Il m'a parlé du Père Lamy, et c'est à cette occasion-là, pour répondre à vos questions, il m'a également mis évidemment en contact avec le comte Vivert, il m'a écrit plusieurs lettres, m'a envoyé le livre qu'il avait sur le père Lamy, que j'ai lu. Ensuite, à la fin du mois, je me suis donc décidé à répondre à l'appel de Dieu que je percevais être en direction de cette congrégation. J'ignorais bien sûr ce qu'était la vie religieuse. Je n'avais pas une grande idée de tout ça. Je savais simplement que c'était appelé à être prêtre et que c'était là que je devais aller. C'était une aventure. Grande aventure. À 16 ans, j'avais peu de formation culture religieuse. J'avais une formation chrétienne que j'avais reçue par ma famille et puis par la catéchèse et puis par la prière et des lectures, l'appartenance aussi à la croisade eucharistique qui avait été fondée quelques années dans la paroisse par un vicaire, un vicaire, qui nous avait formé à la prière, à l'apostolat et puis aussi à une dévotion spéciale envers le Saint-Sacrement. Nous invitons souvent le Saint-Sacrement avant d'aller, par exemple, à l'école. C'est ce qu'on faisait à quelques camarades. Avant d'aller à l'école, on passait à l'église, on restait un moment pour le Saint-Sacrement, comment on peut faire quand on est avant. Et ça, c'était avant. Et je crois que ma vocation, je suis parti à ce prêtre, comme aussi à deux vieilles demoiselles qui étaient nos voisins, souvent souffrir parce qu'on priait beaucoup dans nos jeunes, avec mes frères et mes camarades, mais qui, je les suis plus tard, priaient de quelqu'un de ces garçons-là deviennent prêtre. Donc, c'est ce qui est arrivé, grâce à Dieu. Alors, donc, nous sommes à la fin du mois de mai. Charles-Emmerich est obligé de partir et monte au front. Les batailles dans lesquelles il est engagé, il arrive à s'échapper et il revient soudain à la maison, à Jeanne-Marie. Et là, alors, mon père lui prête des habits civils. On lui donne un vélo de là. Mon vélo, je crois bien, c'est que je m'en rappelle plus. Et puis il va quitter vers la fin du mois en vélo depuis l'Alsace de Marie, c'est-à-dire 24 km de Belfort, jusqu'à Jouy-en-Josas. Il mettra 3 jours pour parcourir quelques 500 km. Alors lui, il a réussi à se faufiler à travers tout ce qu'il aurait pu, avec la grâce de Dieu, pêcher d'avancer. Il est donc arrivé à Jouy-en-Josas. À la grande joie du Colombier, début juin, il faisait très très chaud, il faisait un temps magnifique pendant cette année 1940, malheureusement pour nous, parce que s'il avait fait plus mauvais, l'aviation allemande aurait eu moins de facile. Alors, de là, on a quand même pu correspondre, je ne me rappelle plus très bien comment, et il m'a donc fait signe, le Colombier aussi, que je pouvais venir quand je voulais. Alors, nous sommes donc début juin, mes parents étaient d'accord, ils me sont en paix, bien sûr, parce que c'était un tournant aussi pour eux, et puis, notre règle, ça c'est ça qui m'a coûté le plus, et une petite notice qui disait qu'il n'y avait pas de congé, et qu'on était autorisé à voir ses parents, que même s'ils étaient rentrés ou s'ils étaient morts. Alors, bien sûr, les parents pouvaient venir, mais il n'y avait pas de possibilité de voir une fois qu'on était parti de la mort au rupture. C'est ça ce qui m'a coûté le plus dans mon choix. Et en fait, je suis resté 5 ans sans les voir. Ni je suis allé, bien sûr, mais non plus on n'a pu venir. Alors, donc, il a fallu faire des démarches à la sous-préfecture, parce que les Allemands ont tout de suite, après la débâcle et l'armistice, pris des dispositions pour annexer l'Alsace, puis moins simplement au Troisième Reich. J'ai eu un Ausweis avec lequel j'ai pris le train, quand bien que c'était le 10 août 1940. Et à l'époque, notre pays était, il y avait un grand viaduc. Le grand viaduc avait sauté, et puis il a fallu prendre le train un peu plus loin. Et au lieu d'aller en ligne directe de Belfort à Paris, comme c'est actuellement une voie directe, il a fallu que je passe par Dijon dans des trains comblés, Père, elle m'a préparé un petit flacon de schnapps, comme ça, en disant de temps en temps, si tu sens un petit peu mauvais moral, tu peux prier, mais tu peux aussi donner un petit peu de schnapps. Alors, c'est vrai que de temps en temps, c'était peut-être pas très indiqué, mais enfin, c'était surtout le geste de mon père, c'était ma famille voilà, qui m'encourageait dans la direction que j'allais prendre. Donc, me voici au milieu des gens, parlant français, mais quand même, je ne suis pas très doué quand même encore. Je ne sais pas si je suis aujourd'hui, mais enfin, c'était comme ça à une époque. De temps en temps, je me donnais du courage. J'arrive donc à Paris. À la gare de l'Est, fait de gare pour prendre la gare Montparnasse, pour aller ensuite à Saint-Chantier. Et Charles Deneker m'avait envoyé un petit plan à la sortie de la gare, des chantiers. Je savais que je devais passer sous un pont et puis prendre une route qui me conduirait à Jumilly-en-Josas. En sortant de la gare, j'avais mal lu le plan, de faire. 5 km à pied, j'ai bien dû en faire le double. C'est-à-dire que j'ai fait un crochet comme ça. Et enfin, toujours est-il que j'ai arrivé sous un beau soleil, dans l'après-midi du groupe hiver, et j'ai sonné. Et il y a une dame qui logeait là dans cette petite maison. Et elle, c'était une personne du midi, elle est très volubile. Alors quand j'ai sonné, elle est arrivée. J'ai eu un flot de paroles auxquelles je n'ai rien compris. Alors, finalement, elle est allée appeler le combinet. Alors, petite délicatesse, la providence, j'étais friand d'un salade de tomates, je suis encore. La dernière chose que j'avais mangée à la maison en rentrant de train, c'était une bonne salade de tomates avec des oignons. Dernière délice familiale. Et je me suis dit en partant, ça y est, c'est fini, tu n'auras plus jamais. Et le combiner, il n'a pas mangé. Et la première chose que j'ai eue, c'est une bonne salade de tomates.
Voilà, alors. Comme ça, vous avez pu entendre un petit peu la voix de Père André. Voilà, donc, dans la lettre à laquelle il fait référence, quand il écrit au comte d'Hiver, il dit une parole qui fera plaisir à Frère Jean-Pierre, parce que le comte d'Hiver devait lui dire, mais est-ce que vous êtes vraiment sûr? Est-ce que, voilà. Et alors, il lui dit, entre autres dans la lettre, oui, c'est tout à fait ce qui me convient. J'espère bien me conduire en alsacien et non pas en type de l'intérieur. Voilà. Alors, juste pour dire que, en tout cas, la fidélité à la parole donnée, c'était quelque chose de très important pour Père André. On a quitté Père André quand il arrivait à Jouy-en-Josas. À ce moment-là, donc, ils étaient à la recherche, ils commençaient à rechercher un lieu pour les frères. Donc, ils étaient un certain nombre logés. Il y avait la maison du comte d'Hiver et puis il y avait une autre maison où ils étaient logés. Et à ce moment-là, ils recherchaient un lieu. Alors, ils avaient des temps de prière, ils apprenaient le français, etc. Enfin, ils avaient... Et en même temps, ils recherchaient un lieu. Alors, ils ont cherché différentes abbayes. Ils voulaient une abbaye cistercienne. Alors, pourquoi cistercienne? Parce qu'il s'était adressé au Saint-Ordre de Cîteaux, parce que le Saint-Bernard aimait la Sainte Vierge, grosso modo, et puis donc le comte d'Hiver, qui n'était pas un religieux, qui n'était pas un prêtre, s'est dit, mais pour donner une formation aux jeunes frères, comment je vais m'y prendre pour... Et du coup, il s'est dit, ben voilà, je m'adresse aux cisterciens. Et les cisterciens avaient donné trois conditions pour accepter d'accompagner la jeune communauté. D'abord, qu'il soit au moins une douzaine. Deuxième condition, que dans ces 12, il y ait 2 prêtres. Et troisième condition, qu'ils reprennent une ancienne abbaye cistercienne pour la faire revivre. Alors, C'est pour ça que pendant ces années-là, certains vont se former à Rome pour devenir prêtres, etc. Enfin bon. Et en tout cas, donc, ils cherchent autour de Paris une abbaye cistercienne. Il y en a qui étaient plus ou moins occupés ou pas disponibles, etc. Et finalement, ils tombent sur Ourscan. Et Ourscan, elle n'était pas inoccupée complètement, hein, parce qu'il y avait le STO à Ourscan. Et du coup, mais petit à petit, donc, les tractations vont se faire pour reprendre l'abbaye, et ils vont arriver. Alors d'abord, Charles Menecker arrivera le 2 octobre 1941, ici. Et le lendemain, donc, Père André vient, alors lui, il vient en vélo, de Rouen-Josas, avec une carriole derrière son vélo, avec les affaires de la communauté. Voilà, il y avait deux carrioles, en tout cas, en tout, pour les affaires de la communauté. Et puis, il repart le lendemain, je crois, vers Rouen-Josas. Alors, il ramène là-bas du blé, parce que, voilà, c'était la période un peu difficile. Et il revient de Rouen-Josas avec une douzaine de poules dans sa, dans sa carriole. Voilà l'arrivée de Père André à Ourscan en 1941. Oui, les ponts avaient été dynamités, enfin, je passe les détails. En tout cas, c'était quand même une expédition pour arriver ici. Ici, donc, il y a aussi toute une histoire de pour ne pas être réquisitionné, etc. Donc, ils se font refaire des papiers. Donc, vous connaissez le nom de Dédé, le nom de Père André, donc c'est Dédé, mais son nom, il reçoit une carte d'identité au nom de Jocelyn Ledoux. Bon, c'est toute la période un peu compliquée de la guerre. Donc, pendant cette période, ils sont ici, ils commencent un semblant de vie religieuse ici. Il y a un père cistercien qui vient les rejoindre et qui vient les aider. Un des frères de Père André, comme beaucoup d'Alsaciens, c'était une période un peu compliquée, va être enrôlé chez les SS, et puis va être fait prisonnier, etc. Donc, mais les parents de Père André, pour comprendre pourquoi ils sont arrivés ici après, les parents de Père André avaient fait un vœu, ils avaient trois garçons, et ils avaient dit, mais si nos trois garçons sont sains et saufs à la fin de la guerre, alors on donnera le reste de notre vie à une œuvre mariale. Alors c'est comme ça qu'à la fin de la guerre, les parents de Père André ont décidé de consacrer leur vie à la congrégation pour soutenir la congrégation. Voilà. Alors, donc, il faut d'abord que la guerre se passe, et une fois que la guerre se termine, il faut tout un temps pour obtenir des visas de façon à pouvoir aller au noviciat qui aura lieu en Suisse, à l'abbaye d'Hauterive. Alors, les visas arrivent le 30 avril 1946, et donc, quelques jours après, donc, ils partent pour Hauterive. Alors, à ce moment-là, ils sont 7, je crois, à partir pour Hauterive, dont Père André et dont Frère Michel aussi, qui était arrivé en 1944, lui, le 11 février, bien sûr, le jour de Notre-Dame-de-Lourdes. Voilà, donc ils font leur noviciat à Hauterive, où ils reçoivent une formation strictement cistercienne. Et en fait, alors je pense qu'il y a eu peut-être une forme de malentendu quand ils sont engagés dans ce noviciat. En tout cas, à la fin du noviciat, vers le mois de mai, se pose la question de prononcer les vœux. Hein. Donc, ils sont entrés au mois de mai 46, en mai 47, donc. Et alors, les cisterciens leur disent, ben, vous allez prononcer vos vœux sur la règle de Saint-Benoît. Et puis, mais du coup, quelque part, ils abandonnaient quelque chose du Père Lamy. Alors là, pour eux, c'était un peu compliqué, donc. Ça s'est passé dans la concertation aussi, mais du coup, ils ont quitté l'abbaye d'Hauterive sans rien, et ils reviennent ici à la fin du mois d'août 1947. Alors, ils s'adressent à l'évêque de Beauvais, pour l'évêque de l'époque, Mgr Röder. Alors, on a le petit mot qu'il a écrit, qui n'était pas très engageant. Il dit, ben non, moi, pour moi, c'était les cisterciens qui venaient, puis pas d'autres, donc voilà. Mais quand je reviendrai de vacances, on pourra voir ça. Bon. Alors, un moment un peu compliqué quand même. Mais alors, c'est beau la sagesse des pères cisterciens qui, heureusement, étaient là pour veiller au grain et puis qui ont fait l'intermédiaire avec l'évêque de Beauvais. Donc, en janvier 48, donc, ils ont rencontré l'évêque de Beauvais, ça s'est bien passé. Et si bien qu'il a été d'accord pour reconnaître la congrégation le 15 juillet 48. Et c'est à cette occasion que Père André prononcera ses premiers vœux ici dans la grande chapelle. On a quelques photos aussi de cette période-là. Et quelques mois après, donc en septembre, il va commencer à être maître des novices. Là, il sera le maître des novices, notamment de Père Étienne, qui est arrivé pendant qu'ils étaient en Suisse, à Outremont. Donc, ça va être un de ses premiers novices. Donc, assez vite, parce que donc il prononce ses premiers vœux en juillet, il est maître des novices en 48, en septembre, au mois d'octobre, il reçoit les ordres mineurs, en fin d'année, les autres ordres mineurs, et puis finalement, il est ordonné prêtre le 16 avril 49. Donc, ça va assez vite. En 49 et en 1950, Père André attrape la tuberculose. Alors il était tout feu, tout flamme, il allait visiter les gens, notamment à la cité, il y avait un monsieur qui était atteint de tuberculose. Et physiquement, après la guerre, Père André n'était pas non plus, ne respirait pas non plus la santé pleinement. Et il attrapait la tuberculose. Du coup, il est parti presque 2 ans. Il était dans un sanatorium. Il est revenu au moment du décès du comte Bivet, qui est décédé en avril 52. Voilà. Entre temps, il était revenu faire prononcer ses vœux perpétuels, mais donc il était absent presque 2 ans. Donc Père André après va redevenir maître des novices. Déjà, à partir de ce moment-là, Père André va commencer des récollections pour les religieuses. En 54, alors il en fait à Compiègne, à Noyon, où étaient les sœurs de Saint-Thomas de Villeneuve, et ailleurs. C'est un moment un peu compliqué pour la vie de la communauté, il y en a eu beaucoup, mais ça, il y a un moment un peu compliqué. Donc, l'évêque veut une visite canonique, et finalement, dans ces circonstances, Père André, en janvier 58, va devenir le prieur d'Ourscan. Et le supérieur général va être dans la maison qui avait été fondée près de Notre-Dame-des-Bois à Chassigny. Et l'année suivante, donc finalement, il y a des élections et Père André va être élu supérieur général donc le 9 février 59. Alors, il y a un peu une hécatombe à cette période-là. Ça va continuer encore un peu après. Et donc, Père André a été supérieur de 1959 à 1971. Il y a deux parties majeures, on pourrait dire. Une partie où il a beaucoup galéré, où il n'y avait pas beaucoup de monde, où il y avait beaucoup d'incertitudes sur l'avenir. Et puis, une partie où les vocations sont arrivées petit à petit. Et ça, dans la première partie, de grosso modo de 59 à 71, l'année où est arrivé Père Bernard, bien sûr, et Père Guy. Dans cette première partie, donc Père André a été, on peut en retenir différents éléments, mais notamment sa persévérance. Dans cette période des années 60, donc il y a d'une part, du côté de Rome, ils se demandent un petit peu si cette communauté, bon, qui végète un peu, il ne faudrait pas la supprimer. Ou Père André étudie avec d'autres communautés, faut-il se rapprocher Et en 65, donc, il y a Mgr Desmazières qui est devenu l'évêque de Beauvais. Et Mgr Desmazières a beaucoup encouragé Père André à, selon sa grâce propre. Et donc Rome avait téléphoné à Mgr Desmazières et à deux reprises. Donc, ils ne lui ont pas forcé la main. Et Mgr Desmazières a dit « Non, je ne suis pas là pour faire disparaître les communautés, mais pour les encourager et les faire vivre. » Voilà, donc, il y avait cette incertitude, mais aussi une autre incertitude qui était un peu compliqué, c'est au niveau matériel. Le comte Biver avait créé une société civile immobilière qui s'appelait les élevages d'Oursan, la société des élevages. Et à ce moment-là, comme la communauté était toute petite, ils se demandaient s'ils n'allaient pas donner congé aux habitants de l'abbaye. Donc au niveau matériel, c'était des années quand même très difficiles. Ils vivaient dans vraiment dans la pauvreté. Et on pourrait ajouter un troisième élément qui était compliqué quand même pendant ces années 60, c'est la période aussi du Concile. Et tout n'était pas forcément très simple à cette période pour garder le cap. Et voilà. Donc, Père André, on peut lui être reconnaissant qu'il ait bien gardé le cap, parce que si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est grâce à lui, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, c'est clair. Pendant cette période, en même temps, dans les années 60, Père André ne se referme pas sur lui-même, en mourant d'avance, en quelque sorte. Ils sont que cinq frères dans ces années 60. Il y a Père Jean qui arrive en 1964. Père André déploie plutôt son ministère de prédication de retraite. Alors, il se nourrissait beaucoup de la Bible. Il se nourrissait aussi beaucoup des enseignements du magistère. Alors, quand il avait une encyclique qui sortait, il l'épluchait dans tous les sens, il la soulignait, tous les enseignements du Concile, il les a beaucoup étudiés. Et il y avait une grande confiance avec Monseigneur Desmazières, qui lui a demandé, alors c'est dans une période quand même assez charnière, de donner des récollections près du diocèse. Après, il lui a demandé d'être responsable du secteur missionnaire aussi, de Noyon. Donc il avait... Et Père André était très ouvert. Et alors, il y a plusieurs choses qui l'ont marqué aussi à cette période. Il a été très proche de l'Arche aussi à cette période. Donc Jean Vanier et le Père Thomas sont venus le rencontrer dès 1964. On en a des traces dans le journal de communauté. On voit l'évolution du vocabulaire d'abord. Et il parle des handicapés, puis après des personnes handicapées. On voit... Et petit à petit, et Jean Vanier s'appuiera aussi sur lui pour faire des enseignements aux premiers assistants de l'Arche. Donc il y a eu une collaboration, on pourrait dire. Jean Vanier aussi, par ailleurs, fera des enseignements ici. Le Père Thomas Philippe donnera des retraites aussi ici. Une retraite. Ah oui, alors Père André était dans le conseil d'administration de l'Arche. Un autre mouvement qui a beaucoup marqué Père André, c'est les Focolari qu'il a connus en 1969. Et donc cet esprit de communion qui a beaucoup marqué Père André dans son ministère auprès des prêtres du diocèse et dans tout son ministère plus largement, il était assez touché par cette spiritualité de la communion, si on peut l'appeler ainsi. Pendant cette période aussi, Père André fait partie du comité permanent des religieux. Il en fera partie un certain nombre d'années. Donc, même si la communauté était toute petite, mais il avait aussi il rencontrait des supérieurs d'ordre religieux de grandes communautés. Il va contribuer à sa manière, je crois, à un document que vous ignorez sans doute, « Mutuae Relationes ». C'est un document qui est paru après le Concile pour les relations entre les religieux et les évêques, pour bien, toujours dans ce sens de la communion aussi, pour bien travailler dans une bonne intelligence. Et voilà. Chacun ne tire pas la couverture à soi. Voilà, donc on arrive en 1971. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont être importants en cette année-là. Je ne vais pas tout vous dire, mais déjà, depuis quelques années, suite à la fin du Concile, Père André a renouvelé, a rédigé une nouvelle règle selon les indications données par Rome. Donc il va s'atteler à ça avec Père Jean notamment. Et donc Monseigneur Desmazières approuve cette règle donc en 71. En 71 aussi, il va introniser Marie, alors sous l'impulsion de Père Jean, bien sûr, mais ils vont introniser Marie dans la communauté, remettre vraiment la communauté sous le regard de Marie. Et à cette époque-là, la communauté ne disait pas le chapelet en communauté, chacun le disait. Et Père Jean avec ses novices, ses petits novices, Père Bernard et Père Guy, a pris cette habitude de dire le chapelet en marchant dans le parc, et c'est comme ça que petit à petit la communauté va adopter cette coutume caractéristique d'Ourscan. Donc il y a ce noviciat important avec Père Bernard, Père Guy, Père Pierrick et Joël Leclerc, et un peu plus, 2 ans après, c'est Frère Gérard qui arrive, et puis après il y a Père Stéphane, Michel Marie, Père Thierry, Frère Roger, etc. Et puis après, moi-même, j'arriverai quelques années encore après. Voilà. En tout cas, pendant ces années-là, il y a quand même un certain nombre de vocations qui se présentent et qui sont importantes pour Père André. Pendant toute cette période, Père André, un autre aspect, je vous ai déjà parlé de Jean Vanier, je vous ai parlé des Focolari, mais Père André a accompagné à ce moment-là aussi un certain nombre de personnes et de mouvements, de communautés qui naissaient. Alors, 71, oh là, horreur, je ne lis pas vraiment mes papiers, pourtant il y a eu un événement important en 71, en décembre 71. Père André avait prêché aux religieuses de Saint-Thomas-de-Villeneuve et avait travaillé aussi pour leur chapitre général. Alors ça nous a bien servi parce qu'il a essayé chez elle et puis ça a bien marché. Donc, après, il l'a appliqué sur nous. Donc Père André a prêché auprès des sœurs de la communauté de Saint-Thomas-de-Villeneuve. Et un jour, la mère supérieure générale, je crois, lui a dit d'une façon un peu imprudente, « Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous remercier ?» Ben, vous pourriez peut-être nous prêter, entre guillemets, quelques sœurs pour nous aider à Ourscan. Alors, la mère supérieure, prise au piège, parce qu'elle appréciait aussi Père André, donc il y a 3 religieuses, Saint-Thomas-de-Villeneuve, c'était une aide très très précieuse, qui ont vécu ici pendant 10 ans, de 71 à 81, pour aider la communauté. Alors, il y avait une sœur qui était à la lingerie, une autre à la cuisine, et puis une autre pour l'hôtellerie. Donc, oui, une sœur Alice, voilà. Et d'autres, parce qu'il y avait... Et même sœur Marie-Luc, qui est là aujourd'hui, qui a séjourné un petit moment à l'abbaye, je crois. 3 mois, voilà. Pendant... Voilà, alors c'était aussi une aide très précieuse à ce moment-là. Voilà, donc Père André auprès des sœurs de Saint-Thomas, mais auprès aussi des petites sœurs de Saint-Aignan. Il était proche, il a accompagné les débuts de la communauté du pain de vie. Il a... Voilà, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a pu faire, mais voilà. Alors, il y a aussi une autre initiative, ça on arrive à la fin de son mandat. Maître Fricoteau va lui demander son soutien pour Notre-Dame de France. Alors, c'est comme ça que Père André va s'engager auprès de Notre-Dame de France pour permettre l'érection de cette statue au nord de Paris. Voilà, alors ça advient en 1988, en octobre 88, et en décembre 88, c'est là qu'on a un autre chapitre général. Et à l'occasion de ce chapitre général, un chapitre d'élection, donc Père André n'est pas réélu. Père André n'avait rien fait pour être réélu non plus, hein. C'était pas du tout quelqu'un de pouvoir qui s'accrochait, comme on voit dans certains chefs d'État, voilà, qui restent accrochés à leur siège. Ça, c'était pas du tout Père André. Au contraire, il était plutôt content de transmettre l'enflambeau. Il avait plutôt, il encourageait les initiatives et voilà. Donc, il était content de transmettre le flambeau et puis il pensait que c'était important pour l'avenir. Et c'est vrai que personnellement, en tout cas, j'étais très impressionné. Il avait quand même été supérieur général pendant 30 ans. Et du jour au lendemain, il venait demander ses permissions à son successeur, mais comme un novice. Mais alors, c'était pour nous très édifiant, en tout cas, de voir qu'il n'était pas du tout, ou il ne faisait pas de mauvais esprit, ou je ne sais pas, c'était pas du tout dans son. Ça ne lui venait même pas à l'esprit. Il était vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc, il y a eu cette passation de sa charge, et puis après, assez vite. En 91, donc c'est préparer la fondation d'Alsace à Haute-Marsheim. Alors c'est là que Père Thierry lui a demandé s'il voulait bien s'occuper de cette fondation. Donc c'est quand même beaucoup Père André qui a été l'artisan de cette fondation, qui a pris beaucoup de contacts sur place, etc., qui a noué beaucoup de relations avant même l'arrivée de la communauté Lama. Et donc il y est parti. Alors il y avait une photo avec Père Étienne, je crois que c'est pris juste avant son départ. Et puis la photo aussi, c'est la photo devant l'abbaye au moment où il partait avec sa 4L pour la fondation d'Alsace. Donc c'est une des dernières photos qu'on a eues ici. Je pense qu'il n'est jamais revenu à Ourscamp après. Voilà. Et donc il part là-bas en septembre 91 et en novembre ça va moyennement bien, donc il fait un certain nombre d'examens, si bien qu'il est hospitalisé le 23 décembre, deux jours avant Noël, et là ils ouvrent et ils voient que le cancer est tellement avancé qu'il n'y a plus rien à faire. Du coup il va rester un moment à l'hôpital et puis après il va être rapatrié jusqu'à la maison des frères là, près de Mulhouse, et c'est là qu'il va décéder le 27 janvier 92. Voilà.